I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où je retrace chaque jeudi matin le parcours de mes invités depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, je suis le fondateur de Mademoiselle, un média web féminin que j'ai lancé en 2005 et revendu et quitté durant l'été 2020 après 15 ans de bons et loyaux services. Je suis aussi l'hôte de trois autres podcasts, Histoire de Daron où j'interviewe des pères sur leur paternité, Histoire de Mec où je fais parler des mecs, de masculinité et un dernier intitulé La reco de FabFlo qui se passe en live sur Twitch et où on discute avec mes invités de leur reco culturel. Si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. J'ai réalisé pour Mademoiselle des dizaines d'interviews et je suis heureux de pouvoir vous proposer ce format que j'apprécie tant pendant une heure chaque jeudi à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast préféré. Cette semaine, je reçois Cécile Roederer, qui est fondatrice de Smallable.com, l'une des références en France dans la vente à distance de produits de mode et de décoration pour la famille. On discute avec elle de son parcours salarié qui l'a amené à créer Smallable avec son compagnon en 2008, comment elle a conjugué quelques années plus tard sa vie de future maman avec ses impératifs de boss, les aspects positifs et les dangers à travailler en couple, ses velléités de se développer à l'international et comment cette crise sanitaire a impacté la vie de son entreprise aujourd'hui. On parle aussi d'ambition, de faire des choix drastiques, bref, j'espère que cet entretien très enlevé avec Cécile vous intéressera. N'hésitez pas à nous rejoindre pour venir discuter avec mes autres auditrices et auditeurs sur mon Discord. La communauté grandit petit à petit et les échanges deviennent chaque jour plus enrichissants. Je vous mets un lien dans les notes de l'épisode. Merci d'avance et bonne écoute en compagnie de Cécile. On est avec Cécile. Salut Cécile.
Bonjour Fabrice.
Comment ça va?
Très bien.
Comment ça se passe cette période de pandémie pour toi, à titre perso
et... Écoute, ça va faire un an qu'on est dans une certaine situation. Alors au début, on avait l'impression d'être dans une situation de guerre, très combatif, très soudé, l'équipe, toujours à fond, mais dans une agilité et en état d'alerte un peu permanente. Je dirais qu'au bout de plusieurs mois, quand même, on s'habitue, même si on a quand même pas mal de rebondissements un petit peu tous les quatre matins. Je dirais que voilà, on s'habitue, c'est du changement et on s'adapte.
Ça a été la période de... Alors là, on est dans des bureaux, mais donc de fermeture des bureaux, etc.
Bah, on a fermé, oui, du jour au lendemain. On a fermé notre concept store dans le 6e. Après, je dirais que d'avoir tout le monde en télétravail, on a été déjà habitués. Enfin, c'est pas un sujet. On est quand même voilà, une boîte digitale. Voilà, il n'y a pas de sujet. Donc ça, on s'est très, très vite adapté. Après, ce qui est le plus difficile, c'est pas la cohésion à distance, mais c'est de moins se voir. Physiquement, on fait beaucoup de visio, mais en revanche, de plus avoir, et c'est ce qui manque, voilà, quand on discute avec les uns les autres, ce qui manque, c'est de se retrouver, de faire les fêtes ensemble, des moments, voilà, de partage, et tu coupes un petit peu tout l'informel quand t'es en permanence un peu en visio à distance, voilà, c'est plus difficile à recréer. Donc, on a tous hâte de pouvoir enfin se retrouver, de profiter de cette grande cuisine, de la terrasse pour faire des apéros tous ensemble. C'est ce qui manque le plus, je crois, à tout le monde.
C'est pas tout de suite, hein, je pense.
Non, c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. On a eu la folle idée en juillet dernier de vouloir en faire un. On s'est dit non, ça n'est pas raisonnable. Et en tant que chef d'entreprise, tu dois être responsable. Ouais. Donc, voilà. Donc, non. Mais ça va, on s'en sort plutôt pas mal parce que bon, on est sur le web, donc déjà depuis 12 ans, donc effectivement, bon, le e-commerce, on a été plutôt favorisés et privilégiés dans cette situation. On a vu quand même un report, voilà, des ventes physiques vers le web. Et comme nous, on a réussi à maintenir notre activité tout du long, à livrer, on s'adaptait un petit peu aux fermetures des différents pays. On pouvait plus livrer à un moment donné l'Italie. Après, c'était les États-Unis plus compliqués, mais globalement, voilà, on s'en sort plutôt bien, mais c'est challenging tous les jours.
On va reparler de cette aventure qu'est Smallable, qui existe maintenant depuis 12 ans, c'est ça?
Ça fait 12 ans, oui. Enfin, ça va faire 13 ans que la boîte a été créée, puisqu'elle a été créée en mars 2008, mais le site, on l'a lancé en août 2008. Donc, ça va faire 13 ans de création de société. Effectivement, le site, ça fera 13 ans en août.
Alors, l'une des particularités de ta boîte, on en reparlera, c'est que vous l'avez montée en couple.
Ouais, exactement.
Et ça, ça doit être quelque chose aussi. J'ai plein de questions à te
poser. Ah oui, bah, ça, c'est toujours le truc. Alors, comment c'est de bosser avec son mari? Ouais. Ouais, bah oui, mais bon, je dis toujours, c'est ma plus grande force. Alors, ça n'a pas été toujours tout très simple. Bon, alors, Pierre, après, il a bossé quand même, il continue à bosser dans son agence. Donc, bah, les débuts, c'était plutôt le soir et le week-end. Et puis, moi, j'étais à fond vraiment pendant 2 ans. Et puis après, voilà, il m'a rejoint à plein temps. Bah, quand on a eu notre premier enfant, où là je me suis dit oulala, viens, parce que ça commence à décoller un peu et on a besoin d'être vraiment deux avec quelques coéquipiers.
Ok, on va en reparler, parce qu'effectivement ta particularité c'est que t'as monté cette boîte pour les futures mamans, alors que toi-même t'étais pas future maman.
Ouais.
C'est vrai qu'en général c'est un truc chez les futures mères qui se disent ok, j'ai un problème, comment je fais pour...
Bah, c'est vrai qu'avec la maternité parfois il y a ces déclics là. Et non, mais moi, j'ai fait des études de marketing, donc après étudier un marché, un positionnement, et vraiment, je suis partie de là, hein, d'un besoin inside consumer, comme on dit dans le marketing. Je suis partie d'un besoin consommateur, et je me suis dit, ah, il y a quelque chose à faire, et puis bah, ça n'existait pas à l'époque tel que je l'imaginais, en fait. Et c'est vraiment, et je pense que du coup, on a une certaine objectivité quand justement on n'est pas soi-même maman, je pense, pour construire le business.
Un œil un peu neuf.
Ouais, un œil un peu nouveau et très objectif.
On en reparlera après. Mais avant ça, la première question que je pose à tous mes invités, c'est en fait à quoi tu ressemblais, Cécile, quand tu avais 7-8 ans?
Alors quand j'avais 7-8 ans, alors moi j'ai vécu à la campagne jusqu'à mes 17 ans. Donc dans un petit village pas très loin de Lyon.
Ok.
À peu près à 30 km de Lyon, donc vraiment au milieu des vignes et de la campagne. Et quand j'étais petite, c'est vrai que j'ai le souvenir, j'étais tout le temps dehors en fait, hein, à jouer dehors, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Donc vraiment être dans le jardin, dans les bois qui étaient juste à côté, dans les cabanes, à construire des cabanes, jouer avec... pas grand chose, mais vraiment dehors, j'ai le souvenir de ça. Et puis d'être assez joyeuse, assez enthousiaste, assez. Je bougeais beaucoup. Je tenais pas en place. Ça, je me suis calmée avec l'âge, mais vraiment, j'étais un peu. Je pense que si on m'avait testée, je pense que j'étais hyper active à l'époque. Donc je bougeais beaucoup et même en classe, ça pouvait être un problème parce que là, je bavardais un peu trop, je rigolais un peu trop et un peu trop dissipée. J'étais un peu comment j'étais à 7-8 ans. Après, j'avais toujours ce côté, et ça, c'est ma mère qui me le disait, j'étais très indépendante petite et j'en ai le souvenir effectivement d'être un peu toute seule, enfin, mais pas toute seule, j'en ai pas souffert du tout, parce que j'étais quand même la cinquième d'une famille de 5 filles, donc famille nombreuse, donc côté tribu quand même était très présent. Et puis on avait, voilà, j'avais des amis, hein, mais en revanche, je m'isolais un peu, je jouais toute seule, mais j'aimais bien en fait, j'étais un peu dans mon monde, je m'inventais mes histoires, et je m'ennuyais pas du tout, et ma mère me disait, voilà, je te pose là, mais alors là, tu peux jouer des heures, et je t'entendais raconter tes histoires. Et puis, ce côté un peu jouer seul, mais vraiment ce côté indépendant, j'avais l'impression que même à 5-6 ans, bah voilà, je sais pas, je voulais parcourir le monde, j'aurais pu me dire, allez hop, prends ton baluchon et vas-y. J'avais pas peur en fait, j'avais pas peur d'être seule, et j'ai eu l'impression d'avoir un sentiment de grande indépendance et ce sentiment de gagner ma liberté très tôt. Et c'est vrai que très tôt, hein, ma mère me disait que je voulais toujours grandir trop vite, grandir plus vite. À 15 ans, j'aurais pu demander mon émancipation. Hein. Vraiment, je voulais être limite avoir mon appart. Je bossais l'été, donc je pouvais limite m'assumer. Enfin, non, mais c'est... Donc ça m'a caractérisée et je pense que ça me caractérise toujours. Voilà. Mais c'est étonnant, quand j'ai du recul, de me dire que déjà très tôt, j'étais comme ça.
Ça devient d'où, tu penses ?
Je sais pas, parce que je dirais que toutes mes sœurs ne sont pas pareilles. Donc en fait, c'est pas forcément l'éducation. J'ai l'impression que c'est plutôt ma personnalité et petite. Mais je vois mon fils en fait quand il est né, il est un peu comme ça. Il a été parce que j'étais un peu dans ce côté aussi un peu liberté. J'étais un peu rebelle, c'est-à-dire que j'aimais pas trop qu'on m'impose les choses. Je suis toujours, hein, j'ai créé ma boîte pour aussi être un peu mon propre patron. Hein. Donc, j'aime, et je vois mon fils, il est un peu comme ça. Donc, je sais pas. Peut-être que j'étais la dernière peut-être que la famille était un peu pas étouffante, mais j'avais envie de m'en sortir aussi souffler et voler de mes propres ailes parce que j'avais 4 grandes sœurs.
Qui étaient beaucoup plus grandes que toi ?
Ouais, ma sœur aînée, elle avait 14 ans de plus que moi. Donc, elle est partie même de la maison. Tu vois, j'avais 4 ans. Mon autre sœur, 12 ans, 10 ans et 5 ans, celle du juste d'au-dessus. Donc, peut-être que j'avais aussi...
Ça fait beaucoup, hein, 5 ans.
Ouais, ça fait beaucoup. Puis, c'est peut-être des modèles, justement. Je les voyais faire plein de choses. Et moi, j'avais toujours... J'étais impatiente, en fait. Impatient de vivre plein de choses. Tu vois, je voyais déjà petite mon petit sac à dos, puis je mets plein de trucs dans mon sac à dos et je me voyais vraiment ouais partir avec mon petit sac à dos sur la route. Donc je ne sais pas exactement d'où ça vient, mais peut-être le fait d'être dernière d'une famille nombreuse. Alors qu'on peut croire au contraire qu'on est un petit la dernière un peu peut-être ou chouchoutée dans un petit cocon et moins autonome.
En tant que parent, plus ça va, plus tu laisses de liberté à tes mômes. Oui, en fait. J'ai un peu l'impression que c'est ça aussi.
Oui, il y a ça. Ma mère me disait. Et puis effectivement, elle lâchait assez vite, elle me laissait assez vite faire. Et puis elle me disait, bon, de toute façon, je sais que t'as du bon sens, je te fais confiance. Et elle a beaucoup joué là-dessus. Et je crois que oui, si je pense que j'avais un tempérament un peu de feu, donc si elle m'avait mis trop d'entraves et d'interdits, je pense que ça aurait clashé. Donc intelligemment. Mon père, c'était plus compliqué, mais intelligemment, ma mère m'a quand même laissé justement pas mal cette liberté avec le contrat de confiance. Ouais. Et c'est vrai que je l'ai... Voilà, j'avais toujours ça, même quand je suis partie une année en Inde, bon, j'étais pas obligée de leur demander, je leur demandais pas l'autorisation, je leur dis, voilà, j'ai envie de le faire. Oh là là, ça les faisait flipper, tu vois, à cette époque-là. Mais j'ai dit, mais de toute façon, je le ferai. Après, je vous en parle. Moi, je veux que vous soyez à l'aise avec ça quand même. J'ai pas envie que vous fassiez... Enfin là, un sang d'encre pendant 12 mois, mais je le ferai quoi qu'il en soit. Donc je pense que c'était... Il me dit, vas-y, non mais de toute façon, vas-y, hein, fais ton truc, on te fait confiance et vas-y, vole de tes propres ailes. Et j'en avais besoin, de ça, ouais.
Comment s'est caractérisée cette envie de liberté un peu plus tard? Tu disais à 15 ans aussi, tu avais pu t'émanciper.
Ouais, je sais pas, c'est que je... Et puis surtout de... En fait, très tôt, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire de ma vie, hein, forcément. Enfin, moi, j'avais pourtant des copines à 10 ans, elles savaient déjà ce qu'elles voulaient être avocates, tu vois, c'était drôle. Non, moi, pas du tout. En revanche, ce que je savais depuis tôt, c'est faire ma propre vie, décider. Je pense que j'avais une intention très forte, quelle qu'elle soit, et j'avais pas peur de me prendre des gamelles, j'avais pas froid aux yeux, j'avais pas peur de prendre des risques, en fait. J'étais un peu casse-cou. Ouais, je me suis mis parfois, même plein de fois, dans des dangers. C'est ce qui me fait peur avec mes enfants après, a posteriori. Je me dis, oh là là, est-ce que mes parents savent pas tout, hein, voilà. Et puis je veux pas dévoiler ici, hein, certaines choses. Mais je pense que j'avais pas peur. Et j'avais une intime conviction, c'est je veux faire ma vie. Et toujours depuis petite, je savais que c'est toi qui fais ta vie. Tu ne subis pas. Et c'est vrai, je ne voulais pas subir ou qu'on m'impose. Je me souviens, je sais pas, j'étais bonne en maths en seconde. Je me dis, fais un bac S. Ah non, mais j'ai pas envie de faire, moi, pendant 75% de mon temps, des maths et de la physique. Ça ne m'intéresse pas. J'étais passionnée d'éco. Et mais un peu tête de mule quand même. C'est-à-dire, j'ai plongé mes notes au deuxième trimestre pour, j'ai rien bossé les maths. Du coup, j'avais 5. Je dis, je peux pas. J'avais 18 en éco. Je dis, je peux pas passer en S, regardez mes notes, quoi. Non, mais tu vois, j'ai fait un peu toujours comme ça. Je veux choisir ma vie et avec les hauts et les bas, avec parfois les difficultés que ça comporte, hein, mais je trouve que c'est ça qui est intéressant. J'ai toujours même visualisé le petit chemin à parcourir comme ça, un peu tortueux, mais c'est ça qui me passionne, en fait. C'est d'avoir aussi, je pense que j'avais l'envie. Alors, tu vas me dire, ça fait 12 ans que je suis dans ce volleyball, donc. Mais j'avais toujours l'envie de vivre plein de vies en une vie.
Ah, on en parlera, ça, parce que c'est un vrai truc.
Et en même temps, ça fait 12 ans que je fais ça. Mais heureusement que tout le temps, on lance plein de projets, donc j'ai l'impression d'avoir toujours que ça change et que c'est pas plan-plan ou immuable.
Sans vouloir rentrer dans ta vie privée, mais tu disais que c'était plus compliqué avec ton père.
Ouais.
Et je sais qu'il y a plein d'auditrices qui sont jeunes et qui ont des frictions avec leur daron, c'est un vrai truc, hein.
Ouais.
Comment t'as fait, toi, pour t'en libérer?
Avec mon père, c'était très compliqué. Il avait un côté quand même assez très dur. Hein. C'est un peu une autre époque. J'avais un papa assez âgé, hein, quand même, qui était l'aîné de sa famille, ma sœur aînée qui était plus âgée. Enfin bon, bref, assez traditionnel et assez très autoritaire. Et bon, du coup, ça marchait pas trop avec moi. Bon, après, voilà, je me pliais, hein, j'étais pas non plus... Mais... Ouais, j'étais assez en colère et un peu rebelle vis-à-vis de lui. Comment j'ai fait Non, ça a été pas mal de clash, hein, quand même. Et je lâchais pas, en fait. Ouais, j'ai un peu combattu. Enfin, je ne voulais pas me rentrer dans le moule. Et j'avais ma mère qui mettait un peu de l'odon, voilà, qui arrondissait les angles. Non, je sais pas si j'ai vraiment réussi. C'est pour ça que j'avais, je pense, envie de me barrer assez vite quand même de la famille. Hein. Enfin, en plus, j'étais la dernière. Ma sœur était partie quand j'avais 12 ans. Elle est partie à 17 ans. Elle est montée à Paris. Et moi, je me retrouvais seule avec mes deux parents. Mais c'était l'enfer. Ma mère me le disait à posteriori. Elle me dit, mais j'essayais de te donner cet espace de liberté parce que je sentais que tu pouvais imploser, en fait. Et non, j'avais pas très bien vécu cette période-là. Je dirais que je me suis un peu réconciliée peut-être avec mon père plus tard. J'ai accepté comment il a été.
En devenant mère?
Non, j'ai eu même j'ai eu des relations très conflictuelles avec mon père même quand j'étais enceinte. Je pense qu'en fait, il était très très protecteur et il était ses filles étaient sacrées. Alors t'imagines même pas, tu te maries ou t'as un enfant, enfin non, pour lui il vivait pas très bien ça, et avec mes sœurs aussi, hein, donc bon, après paix à son âme, hein, je critique pas mon papa, mais non, c'était dur. Je pense que ça c'est plutôt quand j'ai pas mal travaillé sur sur le sujet, et puis je me suis dit bon ben après ça devient un vieux monsieur, et je l'ai accompagné jusqu'à la fin. Hein. Il est parti, et vraiment, je me souviens des 2 heures au chevet de mon papa. On était avec ma mère et 3 de mes sœurs, et puis bon, il avait Alzheimer, donc c'était difficile de communiquer à la fin. Mais je me souviens vraiment des échanges, rien que par le regard très fort. Et je crois qu'on s'est un peu pardonné mutuellement, on s'est un peu réconcilié à ce moment-là. Je sais pas, mais oui.
C'est cool. De faire la paix.
Ouais, je pense que c'est vrai que j'étais hyper contente après quand il est parti, parce que j'étais assez en paix. J'étais sereine. Je sais pas, que j'étais pas triste et que c'est difficile et que c'était l'année de mes 40 ans. Il s'est passé tellement de choses dures à cette période-là. Pas que ça. Ouais, mais tu pars effectivement plus calme et serein. Ouais, je pense que c'est important d'être proche, si tu peux, parfois ça c'est pas possible, mais d'être les dernières heures, ouais. Mmh. Ouais, c'est bien.
Merci en tout cas de partager ça, je crois que c'est important de partager ce genre d'expérience.
Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout c'est le mien, pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée, ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des reco-séries, des reco-ciné, des reco-livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Allez, merci beaucoup, et retour à l'interview.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tu disais que t'as fait un bac ES, c'est ça, pour revenir à ton parcours.
Ouais.
Tu fais quoi après ton bac?
Bah j'étais passionnée d'éco. J'ai eu une révélation sur pas une révélation, parce que alors pour le coup, tu vois, il y avait des choses avec mon père, je m'entendais très bien et j'aimais beaucoup. C'est qu'on discutait, il était assez passionné d'économie, de politique. On était très news, info, plein de journaux à la maison. Il était ingénieur agronome, donc rien à voir, hein, mais c'est vrai qu'à la maison, on parlait beaucoup de ça, et il nous a éveillés, j'ai une de mes sœurs aussi, après, qui était assez intéressée par ça, qui a fait Sciences Po, donc voilà, on baignait là-dedans, et j'ai baigné un peu là-dedans, j'aimais bien, et quand j'ai eu une prof, quand j'ai découvert l'éco, assez tardivement, je trouve ça dommage d'ailleurs de le découvrir aussi tard, c'était en seconde, j'ai eu une prof qui m'a passionnée. Du coup, je me suis mis à fond dedans. J'ai passé mon bac et je voulais tout de suite m'inscrire. Alors, j'avais hésité 2 secondes entre la fac de droit et sciences éco. Et non, je me suis dit, allez, l'éco, ça me passionne. Donc, j'ai fait une fac de sciences éco. avec beaucoup de maths et de stats aussi. Et puis en fait, j'avais envie limite d'être chercheur en économie. Non, tu vois, vraiment. Bon, j'aurais pas du tout aimé, je crois, mais j'étais tellement passionnée par ça que j'avais envie de faire ça. Et puis, j'ai passé 2 ans donc à Lyon, à la fac. Après, j'ai passé 1 année en Angleterre, à Brighton. Pour ma licence, l'équivalent de licence. Et là, j'ai fait de l'économie du développement, parce que ça m'intéressait. Ça m'a vachement intéressée. Je me suis dit, on va faire une année off aussi. Je vais essayer de mettre en pratique un peu. C'est très bien beau l'économie, mais enfin la théorie. Essayons de mettre un peu en pratique. Et puis c'est vrai que les Anglais sont top pour ça, parce qu'en fait, après leur dernière année de BA, souvent, ils font une année off, une année sabbatique. Je pense qu'il est plus peut-être ancré dans les mentalités aujourd'hui, même en France. Mais à l'époque, voilà, c'était il y a 24 ans.
Je ne dis pas
mon âge, mais c'est pas grave. Hein. J'ai pas de souci avec mon âge, tu sais. Plus on vieillit, plus on est épanoui.
Voilà. Calme-toi.
Je trouvais ça génial. Je me suis dit, mais attends, pareil dans mon idée, tu sais, de parcourir le monde et de voir plein de choses et d'enrichir ma vie en permanence. Et du coup, je me suis dit, une année off. J'avais rencontré une amie là-bas qui est devenue une de mes super amies. Et on est parti ensemble. On s'est dit, bon, allez hop, on va en Inde et on va bosser dans des ONG. Et voilà, on a postulé, on a bossé dans une ONG, une seule, parce qu'au Sri Lanka, c'était pas possible d'y aller. C'était un état de blocus à l'époque, un peu compliqué. On a voyagé aussi un peu, hein. Et on a bossé dans une ONG là-bas et qui s'occupait notamment de... Alors moi, elle travaillait plutôt sur un programme plutôt écologique, de développement durable. Et moi, j'étais sur un programme de microfinance, de microcrédit à l'époque à destination des femmes.
Très en amont. Hein.
Bah wow. Oui, c'était le début, en fait. Et Mohamed Yunus n'avait pas eu encore son prix Nobel avec la Grameen Bank. C'était vraiment les tout débuts. Et en fait, c'était vraiment aider les femmes à créer leur propre micro-entreprise. Et puis je pense que ça me passionnait parce que c'est ce côté woman empowerment que j'ai vraiment profondément ancré quand même en moi, je pense, depuis longtemps. Et l'idée, c'était de... En fait, ils cherchaient des fonds à la fois auprès d'institutions indiennes, mais aussi auprès de la Banque mondiale. Et donc, il fallait faire un audit, en fait, de ce programme de microcrédit 10 ans après. Donc, tu vois, il avait été... Ça veut dire, c'était en 96, j'étais en 96 là-bas et ça faisait 10 ans. Donc, tu vois, c'était vraiment précurseur. Mais c'était pas loin du Bangladesh, hein, l'Inde. Donc, ils étaient très précurseurs et donc c'était assez passionnant parce que j'étudiais vraiment les implications économiques du programme. Vraiment, ça avait aidé à les femmes avec ce système de microcrédit à créer leur propre micro-entreprise. Donc, c'était un petit artisanat. Parfois, c'était juste acheter. Un buffle, parfois c'était un métier à tisser, mais c'est de gagner en émancipation économique et du coup sociale et de voir toutes les implications aussi sociales avec beaucoup d'hommes qui étaient très réfractaires au début. Elle cachait, elle faisait ça en douce, hein, parce que...
Ça l'est toujours aujourd'hui.
Ça l'est toujours. Mais j'imagine, je rêve d'y retourner pour voir un peu ce que ça donne 25 ans après. Et on a bossé là-dedans et c'était vraiment une super expérience passionnante. Après, on a voyagé aussi un peu en Inde. C'était assez passionnant parce que... pour toute leur philosophie, leur spiritualité, je trouve que ça m'a changé. Cette expérience d'un an m'a complètement bouleversée.
J'allais te demander justement, parce que j'ai vraiment l'impression que l'Inde, c'est qui tout double pour les Occidentaux. C'est soit tu pètes un plomb et tu pars au bout de 15 jours.
Mais c'est ça. Et il y en avait plein à l'époque, c'était ça. Soit tu pètes un plomb, voilà. C'est comme un peu les Japonais parfois qui arrivent à Paris. Mais oui. Et en fait, moi, j'ai adhéré tout de suite. J'étais comme une éponge. En fait, j'étais dans un état d'émerveillement, tu vois. Genre, ah, c'est génial. Ah, c'est top. Et pourtant, on a vécu des choses dures, tu vois, dans des conditions, de toute façon... on a été très super low cost. Et puis, tu vois la mort en face, hein, aussi. La mort en face, mais ça apporte vraiment toute la différence de cette philosophie un peu orientale. Évidemment, après, tes repères d'occidentaux s'en trouvent vachement bouleversés.
Ils ont un rapport à la mort, notamment.
Et puis, ils ont franchement, ils ont le sourire tout le temps. Ils sont parfois dans un état de dénuement extrême. Et moi, ça m'a marqué. Ils ont le sourire en permanence parce que c'est, oui, c'est cette certaine fatalité. Ils savent qu'ils ont, c'est le karma, en fait, tout simplement. Ils ont cette vie. Donc, ils savent que ce qu'ils doivent bien se comporter dans cette vie pour pouvoir avoir une vie meilleure demain. Bon, après, il y a plein d'autres choses qui sont décriables, on va dire. Le système de caste, c'est assez violent aussi de le voir. Mais ça m'a, à 20 ans, ouais, ça t'en fout. Tu te prends une grande claque dans la figure, mais c'est ce que je cherchais, je crois que. J'avais envie et j'en ai. C'était super enrichissant, une super expérience humaine. Le retour a été un enfer. À Paris, ouais, non, c'était un enfer.
Tu veux dire de revenir à la civilisation française ?
Ouais, et puis en fait, du coup, faut te réadapter. Alors que tu dis, c'est bizarre, t'as vécu. Alors, t'as 20 ans. Tu as vécu 18 ans en Occident, en France, avec tes repères de française, occidentale, et tu as juste vécu un an en Inde, et là, tu es complètement bouleversée. Pourquoi ? Donc, ouais, non, assez dur. Hein. J'étais pas bien. J'étais un peu déprimée en revenant. On résiste, et puis on s'en sort, et puis par l'action, mais ouais, c'était difficile. Après, je voulais absolument pas revenir à Lyon, mais plutôt faire, toujours dans l'idée d'avancer, venir à Paris, parce que je me suis dit, au moins, c'est une ville cosmopolite, ça bouge, c'est brassé. Je trouvais que Lyon était un peu trop petite ville, ça m'énervait un peu les gens un peu plus étroits. Enfin, c'est une très jolie ville, mais j'avais vraiment envie encore de bousculer, tu vois, de toujours. J'avais des coups de pied dans la fourmilière et j'aimais pas trop le côté microcosme. Et je trouve que, et Paris, j'adore d'ailleurs pour ça, parce que tu rencontres pas que des Parisiens loin de là, mais plein de gens qui viennent d'horizons divers, et puis ça bouge tout le temps, moi j'avais besoin d'une ville où le dimanche c'est pas mort. Alors évidemment, là en plein Covid, il se passe pas grand chose. Oui, mais à Lyon, j'ai des souvenirs d'étudiante, mais le dimanche morose, je sais pas, moi j'avais besoin de vie en fait dans ma vie.
Ok. Donc, go to Paris.
Go to Paris. Et alors là, je dis, oh, mais en fait, je crois que finalement, être chercheur, bosser pendant des années sur une thèse, 5-6 ans, mettre 10 ans à faire l'audit, récolter des fonds, c'est long, c'est lent, c'est un processus long. Et en fait, je me suis dit, mais ça va pas avec ta personnalité. Toi, t'aimes bien dans des trucs plutôt rapides, des cycles courts. Ou tu entreprends quelque chose, t'as rapidement les résultats. Voilà, plutôt du court moyen terme que du long terme. Et je me suis dit, ouais, c'était super bien, mais ça m'a permis de réaliser que non, en fait, j'avais pas envie de faire de l'économie. Et là, du coup, je me suis inscrite. Alors c'était une maîtrise de gestion, donc t'avais aussi pas mal d'économie, de gestion et du marketing. Et puis marketing, stratégie d'entreprise, et c'est ça qui m'a passionnée. Puis après, du coup, j'ai fait une spécialisation, donc j'étais à la Sorbonne. J'ai fait un troisième cycle en marketing. Et ouais, j'ai trouvé ça hyper, en fait, concret, assez passionnant. Donc, à la fois, ce qui m'intéressait, c'était la création d'entreprise, tout ce qui est la stratégie d'entreprise et le marketing.
Ok. Tu fais quoi de beau après ?
Après, je rentre en stage chez DIM, parce que j'étais intéressée par le marketing produit, vraiment une affinité DIM, pour le textile.
Les sous-vêtements, les collants.
Et je rentre en stage là-bas, puis rapidement, en fait, ma boss part, donc on me propose un CDD. Après, je sais pas quoi, il y a un poste qui se libère. Donc rapidement, voilà, j'y reste 3 ans, et puis je gravis les échelons. Je fais tout un tas de choses hyper intéressantes, et puis à chaque fois, je tombe sur des... sur des boss qui ont plus cru en moi, en mes capacités que moi-même, limite. Ouais. Et qui m'ont élevé et qui m'ont donné ma chance. Et parfois, elles me donnaient des trucs et je dis, elles sont bien sûres que j'en suis capable. Et ça a été une vraie force, c'était une vraie chance, en fait, d'avoir un peu des mentors comme ça qui t'apprennent, qui transmettent et puis surtout qui te laissent, t'épanouir vraiment, qui te laissent te développer. Développement de compétences et personnel par le travail. Et voilà, donc je passe 3 ans chez DIM. Après, il y a une fille de DIM qui part chez Lancel pour complètement redynamiser la marque en tant que directrice marketing, un peu dépoussiérer la marque à cette époque. Elle me dit, j'ai toute une équipe à remonter, il y a un changement de direction. Viens, écoute, suis-moi. Je dis, oulala, non, mais attends, Lancel, ça me parlait pas du tout. Hein, pas du tout.
Donc Lancel, la
maroquinerie.
Dans le luxe, là.
Voilà, exactement. Enfin, luxe, il y a luxe accessible. Mais oui, grande maison, un peu 1800 et quel, 1870. Oui, voilà, maison bien installée, effectivement. Alors je me souviens, je connaissais un peu Willy Lancel, évidemment, comme tout le monde, mais je vais dans le magasin Opéra et là je regarde, je me dis oh là là, mais je suis tellement éloignée de ces milieux. Et puis en même temps je me dis ouais, mais en même temps c'est sympa, c'est un challenge quoi. J'aime bien, parce que chez Dim on avait eu pareil, le challenge de, on était attaqué par pas mal de marques, notamment Princesse Tam Tam qui démarrait, et il fallait un peu revamper, et donc moi j'aimais bien, si c'est pour arriver sur un truc qui roule déjà ou qui est déjà hyper successful, bon, à quoi bon, il n'y a pas trop d'intérêt, de défi. Et du coup j'avais bien aimé, puis on lançait des nouveaux projets chez Dim, de Homeware, j'avais fait tout un projet sur la lingerie pour adolescents, donc j'aimais bien l'idée de, on a des projets, il y a quelque chose à créer ou à redynamiser. Et du coup là, lancé, je me suis dit, mais en fait, je connais la bosse, j'ai confiance en elle, je sais qu'on va bien s'entendre. C'est une petite boîte finalement, il n'y a que 100 personnes au siège, donc petite boîte, hein. Tu vois, ça faisait 100 millions, évidemment il y a tout un tas de boutiques, mais c'était petit par rapport à Dim qui était l'énorme truc, 5000 personnes, enfin voilà. Et donc structure un peu plus, hiérarchie un peu plus courte, et puis je me dis, ouais, il y a un challenge en fait, ouais, allez hop, ok. Il y a quand même des racines, une histoire, un ADN, on va essayer de participer à ça. Et c'est vrai que j'y suis restée 4 ans, j'ai énormément appris, et puis j'avais toujours en tête l'idée, tu vois, de créer ma boîte, et donc je me suis dit, apprends le max, apprends. Et c'est vrai que j'étais tellement impliquée dans mes jobs, j'étais impliquée comme si c'était ma boîte, hein. Mes boss, elles me disaient, je venais bosser le samedi, je me souviens, enfin, j'adorais. En fait, ça me passionnait. Un peu à fond quoi. mais parce que je savais que j'en retirais en fait, j'étais comme une éponge encore et j'apprenais, j'observais, j'écoutais, je me confrontais et c'est comme ça que j'apprenais.
Tu bossais pour toi quoi?
Je bossais, oui, pour moi.
Au-delà de bosser
exactement,
de la boîte,
je bossais pour moi,
boîte,
pour mon propre apprentissage et mon propre développement, exactement. Et j'en faisais un véritable apprentissage. Et puis, oui, pareil, la chance, ma boss est tombée 2 fois enceinte en 4 ans, pas remplacée. Du coup, moi, je la remplaçais. Donc, j'ai eu la chance rapidement d'avoir très vite des responsabilités. Et puis, même le PDG, tu vois, je voyais qu'il avait une confiance en moi. Enfin, ça te soutient, en fait, ça te donne de la force, quoi. Et ça te permet de te déployer.
Et j'imagine que tu restes 4 ans, au bout d'un moment tu dois quand même avoir un peu des...
En fait 4 ans, mais 2 ans à réfléchir, qu'est-ce que je fais comme projet, qu'est-ce que je monte comme boîte. Alors je suis passée partout, hein, du fameux bar à Juice avant l'heure, tu sais, enfin tu vois, des trucs un peu healthy food avant l'heure, des choses, enfin je sais plus, mais dès que je partais en vacances... J'avais mon petit carnet où je notais toutes mes idées de projets, d'idées, de boîtes. Alors, ça restait à un état de projet et de concept. Hein. Je rentrais pas dans un business plan non plus. Hein. Mais puis après, je disais, faire de la food tout le temps. Et puis après, j'aimais quand même bien, moi, les beaux produits. Enfin, j'ai une vraie sensibilité produit, à la mode, à la déco. J'aime les matières, j'aime la fabrication, côté artistique et artisanal aussi. Donc, j'avais quand même envie de rester dans un univers du beau. Et donc je cherchais tout le temps, je passais des entretiens, j'avais envie de quitter Lancel parce que changement de direction, ça changeait tous les 6 mois, il y avait un changement de positionnement, de stratégie, j'y croyais plus en fait, j'étais plus embarquée, donc j'y croyais plus. Et là je passais, je me souviens, voilà, dans d'autres grosses maisons, Hermès, là, LVMH, des entretiens, et là j'ai eu un déclic, je dis ah non, c'est plus pour moi, ça y est, lance-toi Cécile, non, tu vas pas te remettre dans une boîte qui est quand même assez hiérarchisée, où t'as pas tellement... Et encore, Lancel, t'as quand même un espace de liberté, j'avais, parce que c'était petite boîte. Mais mine de rien, c'était un peu pénible de pas pouvoir décider parfois par soi-même, de dire, mais pourquoi on fait ça? Mais non, mais j'y crois pas, on devrait faire comme si. Donc après, tu te dis, vas-y, fais par toi-même, hein, vas-y, lance-toi, sois ton propre boss, et puis voilà, prends tes décisions, après tu te casses la gueule ou pas, mais au moins, c'est toi qui mène la barque.
Ça a été aussi simple que ça, parce que ça faisait quand même 7 ans que t'étais salarié, tu vois, c'est...
Ah ouais, ça me faisait... Non, mais je me disais, ouais. Oui, par contre, évidemment, quand tu gravis les échelons et qu'à côté, même, il y avait d'autres boîtes de luxe qui me proposaient des salaires qui étaient bien plus intéressants que j'avais, et je pense que j'ai mis 10 ans peut-être à retrouver le même salaire, ouais. Mais sincèrement, hein. Là, effectivement, tu te dis, un petit sacerdoce, tu prends sur toi, mais la passion était plus grande, tu vois. Enfin, c'est toujours pareil. Mon intention de vie est plus forte que finalement des préoccupations matérielles. J'avais pas d'enfant, j'étais pas mariée. J'ai rencontré Pierre en 2015. Ça va, quoi. Enfin, Je savais que j'avais pas des grands besoins, évidemment, et puis c'est pas grave, ça me posait pas de soucis. Mais l'envie de liberté, d'indépendance et d'accomplir par moi-même était tellement forte que j'avais envie de le faire. Après, t'es quand même aidée parce que j'ai réussi à négocier mon départ avec Lancel et donc du coup avoir être chômeur créateur d'entreprise. Donc t'es quand même aidée, c'est quand même une formidable chance. Je pense que si tu te retrouves sans rien du tout, là c'est autre chose.
Je le dis de temps en temps parce que je suis pas spécialement sarkozyste, mais il faut quand même remercier Nicolas.
Ah oui,
Sarkozy,
c'était lui.
Parce qu'avant, en fait, tu étais chômeur. Tu montais ton projet de boîte, on te sucrait tes allocs. Donc, si tu veux, vraiment,
je pense que tu peux pas prendre le risque parce qu'effectivement, moi, j'ai quand même bossé, 2 ans, enfin un an avant de. Puis au début, tu te payes pas. Enfin, c'est quand même compliqué.
Il faut remercier Pôle Emploi. Je pense que c'est vraiment le premier investisseur en France.
Mais carrément.
Le premier business angel,
Je trouve que c'est une chance d'avoir ça. C'est une chance folle et effectivement, ça te met le pied à l'étrier et voilà. Et donc, je me lance. Donc là, j'ai le déclic en passant des entretiens. Et je me dis, oui, maintenant, il va falloir trouver le projet. Parce que là, j'étais vraiment un peu au pied du mur. Je me souviens, c'était en janvier. Et je me dis, bon, écoute, tu te donnes un mois pour trouver le projet. Et puis là, je pense au pied du mur. Tu vois, tu deviens créatif. Je me souviens, c'était en février, donc 2007. Et là, j'ai vraiment un déclic. Je me dis, bon, attends, t'as envie de faire quoi? T'aimes déjà les beaux produits, ok. Après, je voyageais pas mal avec Lancel et Dim, on faisait pas mal, on allait au Japon, on allait aux États-Unis, enfin c'était assez intéressant et moi j'ai toujours aimé, j'étais un peu pareil dans mon côté éponge, à suivre un peu les tendances, qu'elles soient tendances de mode ou tendances un peu sociaux, tu vois, je pense que je sens un peu les choses. Et là, je me suis dit, ah, j'adore, moi, l'idée des concept stores, tu vois, je serais géniale à l'époque, Colette, enfin, l'idée du concept store un peu Colette. Merci n'existait pas à l'époque, mais quand Merci, un an après, Smiley Bell, c'est un, je sais pas, oui, mais c'est un peu ça que j'ai en tête, tu vois, un concept store, un lieu. J'aimais ces logiques d'univers. Et donc, j'aimais bien cette idée, je suis partie de ça, ces concept stores, ces logiques d'univers où tu recrées une ambiance, t'es pas juste à vendre des produits dans un lieu, qu'il soit online ou offline hein, d'ailleurs, mais tu crées une identité, un univers et tu viens pour l'atmosphère. Voilà. Et après, dans l'adulte, il y a déjà un peu de monde, c'est un peu compliqué, il faut trouver un positionnement. Et en revanche, parallèlement, j'avais en fait des copines qui commençaient à être enceintes, à avoir leur premier enfant. Et là, puis voilà, en discutant, lors des apéros, elles me disaient, oh là là, mais tu vas voir, elles étaient assez actives, hein, des nanas qui bossaient pas mal et tout. Donc, elle m'a dit, t'achètes tout sur Internet parce que t'as pas le temps, quoi. Avec les gosses, le soir, sur ton canapé, tu fais tes courses, t'achètes tes trucs. Puis le samedi, franchement, avec ton gamin, faire les courses, c'est l'enfer. Et je dis, toc, toc, tiens. Il y a peut-être un truc à faire. En fait, il y a un besoin qui est bien identifié. Je regarde, j'étudie, je vois rien. Je vois pas.
Pour resituer, mais on est en 2008.
2007.
2007 à l'époque. Ouais. Donc, il y a très peu de choses de e-commerce.
Ah, il y a rien en e-commerce. En fait, il y a très peu de choses. Les plus vieux un peu e-commerce datent de 2000, tu vois, mais c'était pas encore vraiment le développement. Je sais pas, je crois qu'on s'en s'est lancé, je dirais vraiment un nombre de sites e-commerce très très faible. Ouais. Faudrait regarder, je me souviens plus.
La plupart des grandes enseignes avaient pas encore basculé.
Voilà. Pas du tout. C'était un peu le début, c'était quand même un peu la préhistoire à l'époque, on ne croit pas comme ça maintenant, c'est la génération, ils se disent, c'est évident, mais non.
Tu peux tout sur ton téléphone, c'est facile.
Il n'y avait pas le mobile, il n'y avait pas Instagram, ça n'existait pas Instagram à l'époque. Tu vois. J'ai l'impression d'être un dinosaure. Quoi.
Tout juste Facebook.
Exactement, tout juste Facebook. Je regarde et je ne vois rien qui existe en fait. Physiquement, à Paris, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de concept store comme ça, dédié à l'univers de l'enfant, avec une vraie curation, un univers. T'avais des magasins multimarques de mode avec un petit peu d'accessoires de déco, très faits, mais c'était pas ce que j'avais en tête. Bon, après, mon idée en tête, elle était même beaucoup plus large, mais bref. Et en fait, online, il y avait des pure players, mais sur une catégorie, c'est-à-dire en enfant, en mode enfant, oui, mais très mainstream, tout mass market, des VP6 en fait, des qui existaient de la vente à distance et qui étaient sur le web, mais il y avait rien qui existait. Je me dis bon, mais vas-y, fonce, étudie. J'ai étudié vraiment le marché, j'ai pris du temps en fait quand j'y pense. J'ai quand même mis du temps à faire mon travail de recherche de comprendre la cible et puis après de concept, hein, de ton positionnement. J'ai fait mon bon travail bien académique en fait de marketing, hein. Et puis après je suis passée à la phase de business plan Donc oui, j'avais beau bosser sur des PNL dans mes boîtes précédentes. Bon, après, quand il connaît rien, alors attends, qu'est-ce que je mets comme coût, comment je modélise mes commandes. Au début, je vais avoir combien de commandes, c'est un peu à vue. Après, j'ai changé beaucoup avec des entrepreneurs, ça c'était super intéressant, des gens un peu aguerris dans le web pour me donner des infos, et ça, faut surtout pas hésiter, c'est top.
Comment t'as fait?
Par relation, ouais. Par réseau.
Du monde qui connaissait du monde.
Je connaissais du monde qui connaissait du monde et qui m'ont permis de rencontrer des gens qui avaient bossé dans l'e-commerce ou monté ou repris et qui m'ont donné des tips formidables parce que sinon, tout seul, t'y arrives pas forcément, tu vois. Puis c'était un travail théorique juste à lire.
Mais alors, t'avais pas peur de demander?
Non. J'ai pas eu peur de demander. Après, t'apprends un peu parce que tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont perdre une heure de temps avec moi. Mais c'est génial. Faut oser, faut demander. Et en fait, ces gens, je pense que c'est en plus un emploi du temps hyper chargé. Mais génial, mais merci, quoi. Merci parce qu'en fait, ça t'aide. Et puis après, faut pas peur de parler de son concept aussi et de le confronter. T'es toujours flippé, on va me piquer mon truc. Non, parce que t'es tellement engagé dans le truc et t'as une telle idée très précise de ton truc que de toute façon, quelqu'un, même s'il a l'idée, va pas l'exécuter de la même façon comme toi. Donc, faut pas hésiter.
C'est pas l'idée qui compte, c'est l'exécution, clairement.
De toute façon, tu peux avoir la super idée, ouais. C'est l'exécution, puis après la personnalité, quoi. Voilà, c'est ça. J'ai construit ça. J'ai eu des hauts et des bas. J'ai failli arrêter. Je me dis, est-ce que j'y crois? Mais est-ce que j'y vais? Oh là là. Mais vraiment des moments de doute. Ou même, je me souviens, pendant 2 mois, je voulais abandonner. Et puis ça revenait. Et puis après, à partir du moment où j'ai décidé, tu vois, c'est comme tu touches le fond de la piscine, puis après tu remontes, puis alors tu remontes à fond. Et puis voilà, puis on a lancé. Et c'était super, quoi. J'adore. Enfin, c'est l'adrénaline des débuts, l'adrénaline. Enfin, de toute façon, moi, j'adore monter des projets. Donc, même si j'ai Smallable depuis 12 ans, c'est le projet que j'aime, c'est développer, quoi. Avoir toujours des nouveaux projets. Parce que je trouve excitant de se dire, tiens, il y a quelque chose à faire, de partir de l'idée, de la façonner, cette idée, d'essayer de comment on va la concrétiser, quel est le plan d'action, comment on va la dérouler, voilà. C'est ça qui me passionne.
Et tu bosses sur le projet déjà en couple?
Alors, on bosse, oui. Alors, je bosse, Pierre, il est quand même dans son agence de pub.
Ouais.
Vous
étiez en couple déjà à l'époque?
On était déjà en couple. Ouais. On s'est rencontrés en 2005. Okay. Tu dis 2015 ou
t'as dit 2015, c'est pour ça que je me dis, c'est bizarre, mais.
2005. Okay. Non, ça fait 15 ans, c'est pour ça, c'est oui. Le 15. Ça fait 15 ans qu'on se connaît, ça va faire 16. Non, 2005. Oh, ouais, on était déjà en couple. Après, Pierre, en fait, il avait aussi l'idée de monter sa boîte, plutôt dans un autre truc, justement. En gros, rendre le côté DA accessible en ligne pour faire des leaflets hyper faciles, des petites cartes de visite, des trucs un peu sympas, des petites plaquettes online. Voilà, il a bossé sur ce projet-là. Et puis, moi, j'ai bossé sur le projet à l'époque de Smallable. Et puis après, lui, il faisait sa petite étude de marché à côté en disant, il s'est vu qu'il y avait des mastodontes qui existaient en face. Vistaprint à l'époque. Enfin bon, il s'est dit, oulala, moi je vais jamais y arriver. Il a rencontré plein de gens. Il a dit, oulala, mais en fait, c'est des frais fixes énormes, des coûts importants. Il a laissé tomber. Et puis, moi, je me suis mis à fond dans Smallable. Et puis, voilà, j'ai créé le truc. Et à un moment donné, je lui ai dit, écoute, vas-y, on le fait, quoi. Enfin, ça te tente, on se met à fond tous les deux sur ce projet-là. Lui, il a plutôt. Il bossait le soir et le week-end sur le site. Sur la créa, toute la partie identité visuelle. Puis on a fait les shootings photos au début ensemble, dans notre salon. Mais on pouvait pas mettre. Voilà, il bossait quand même à côté. Hein, c'était indispensable parce que là, pour le coup, on pouvait pas être à deux à vivre du chômage. Enfin, c'était un peu compliqué. Et puis on ne savait pas ce que ça allait donner. Tu vois, tu fais vraiment un proof of concept. Tu te dis, attends, lance-toi et après on voit. Puis je me dis, on verra. Bon, évidemment. Au fond de moi, j'avais qu'une envie, c'est que ça marche. Et je me donnais les moyens pour que ça marche. Mais après, tu sais jamais, en fait. Tu sais jamais si ça marchait.
Et alors, tu démarres chez toi, j'imagine?
Tu démarres dans ta cuisine, enfin, dans ton salon. Évidemment, oui, chez toi. Ton appart devient studio photo. Tu récupères les produits, tu fais tout. Tu commences avec deux stagiaires ultra motivés. Tu fais tout chez toi, quoi, jusqu'à ce que tu sois enceinte à une semaine de l'accouchement, où t'es encore chez toi. Et là, tu dis, et là, je dis à Pierre, on se trouve des bureaux. On se trouve des bureaux. Non, je ne le sens pas du tout, s'il te plaît. Je ne me vois pas arriver. Tu ne sais jamais comment tu vas redevenir hein, en ayant accouché. Tu dis si c'est pour que je me tape un postpartum, dépression postpartum, que j'arrive avec un bébé hurlant dans les bras en train de chialer 12 heures sur 24. Voilà, non. Je ne veux pas montrer ça et infliger ça aux autres et à moi-même. Et on a trouvé 10 jours avant en sous-log des bureaux dans le 11e et dans le 10e. Et voilà, ça m'a bien soulagée. Et c'est à partir de ce moment-là où il est arrivé. Où j'ai dit à Pierre, écoute, viens. Là, parce que ça commence à prendre. Ça fait un an que la boîte avait du chiffre d'affaires. Bon, on perdait de l'argent, hein, évidemment. Mais dans le business plan que j'avais fait, je m'étais dit, faut que je tienne un an. Et après, je lève des fonds. Parce que dans le e-commerce, t'es obligé, dans le e-commerce, retail, pas marketplace, même marketplace, si, parce qu'encore plus, parce que le seuil de rentabilité est hyper tardif. Mais je savais qu'il fallait qu'on lève des fonds, donc là, il est venu. Et puis finalement, on a levé des fonds au bout de 2 ans, on a tenu 2 ans. Et quand la boîte faisait du coup à peu près 1 million de chiffre d'affaires d'année glissante, on a eu un profil de fonds d'investissement qui est rentré.
Et les deux premières années, vous avez fait comment? Vous êtes allé chercher des sous auprès des
copains? On a investi tous les deux. On a investi dans la boîte, nos économies, c'est-à-dire qu'on a mis toutes nos économies dans la boîte, quand même. Non, c'est vrai. Hein. On a, à l'époque, une SAS, c'était quasi 40 000 euros. Donc quand même, tu vois, tu ne pars pas avec 5 000 euros. Hein. Tu es obligé de mettre 40 000 euros. Donc, il fallait y croire, hein, mais on y croyait. Et après, on a eu...
C'est plus le cas aujourd'hui pour les gens qui veulent monter une SAS. Ouais. C'est beaucoup plus simple.
Et comme tu n'es pas obligé d'avoir un commissaire au compte. Ouais. Enfin, voilà, c'est un peu plus souple encore aujourd'hui. Voilà. Et puis surtout, on a pitché devant nos potes. On a fait le pitch devant nos potes. En plus, on avait plein de potes qui étaient dans les fonds d'investissement, dans les cabinets de conseil. Donc, ils avaient l'habitude de voir des pitchs, des trucs. Bon, bref. Puis, il y a des gens qui ont cru en nous. Voilà, des amis qui ont cru en nous, qui sont toujours à bord du paquebot, quoi, aujourd'hui. Enfin, du bateau, plutôt pas du paquebot.
C'est un grand bateau.
Et puis, voilà, il y a des amis qui ont investi. Il y a mes sœurs. Et après, on a fait comme ça. Voilà, famille, amis au début. Et puis après, on a levé des fonds avec un fonds d'investissement capital risque.
Ok. Fast forward un peu, mais donc aujourd'hui, ça fait 12 ans.
Ouais.
Est-ce qu'il y a des grandes étapes, en fait, tout au long de ces 12 ans qui ont été particulièrement marquantes pour toi, de l'aspect de la levée de fonds, j'imagine, qui est...
Oui, mais en fait, tout est marqué. Enfin, tu vois, ça fait 12 ans et en même temps, j'ai l'impression que ça fait 20 ans que je suis dedans. Tellement il se passe de choses, tellement c'est intense. Et en même temps, je pourrais te dire, j'ai l'impression que ça fait 5 ans aussi, parce que j'ai comme une fraîcheur encore dans l'aventure et encore une niaque, un engagement que...
C'est cool, hein.
Voilà, peut-être ça passera un jour, mais du coup, je vois, il s'est tellement passé de choses, t'apprends tellement de... Voilà, tu passes de toute seule à aujourd'hui, on est 100 personnes quand même. On a dépassé les 100 il y a 10 jours, un truc comme ça. Ouais, c'est... Parfois, tu te retournes derrière et oui, c'est un peu vertigineux. Oui, c'est... Et en même temps, j'avance tellement, je suis tellement à avancer. Il y a eu des moments très durs, des crises opérationnelles, logistiques, qu'on faille nous foutre par terre, mais complètement. Et là, tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais? Ça va être la cata, ça y est, on est fichu. Des moments d'erreurs de recrutement, mais qui ont été très violentes, de trahison, enfin, horrible. Hein. Et pareil, où t'as 5 mois de grossesse, tu te dis, ah bah peut-être pour ma deuxième grossesse, je vais peut-être avoir un petit peu plus que 15 jours de congé mat. Ouais. Et ben non, tu décides que, ben voilà, c'est pas grave, tu te retrouves toute seule, mais c'est mieux pour comme ça, et tu reprends ta boîte en main pleinement.
Et donc, qu'est-ce que tu veux dire par là?
Non, mais t'as des moments durs, oui, des moments durs où...
Tu pensais faire un break un peu plus long, c'est ça, pour ton congé mat, et tu t'es...
Oui, en fait, à un moment donné, on a embauché une personne et ça s'est révélé être un peu une catastrophe, et c'était une personne sur laquelle je devais pouvoir m'appuyer, et en fait, quelqu'un de humainement très...
Ok.
Que je ne veux plus jamais rencontrer dans ma vie, ce genre de personne, mais après ça te forge les caractères et puis ça t'apprend. Mais vraiment aux antipodes en termes de valeurs et aux antipodes de ma personne et de ma conception des choses.
Donc là on est sur une erreur de recrutement.
Une erreur de recrutement très dure. Et qui, voilà, donc t'as des moments évidemment très difficiles et en même temps, moi ce que je retiens de ces 12 ans, c'est une aventure humaine dingue. C'est oui, des hauts, des bas, des grands bas et des grands hauts. des moments où ouais, tu flippes. Enfin, je veux dire, même pendant le Covid, là, il y a le 16 mars, je me suis dit, ah, ça y est, c'est reparti. Là, on est confronté à un truc, une crise qui peut être phénoménale, qui peut nous foutre par terre. Avec Julien, là, notre CFO-CEO, on se faisait, allez, il faut qu'on se fasse des business plans. On se faisait des business plans, je pense, tous les. Enfin, des business plans, mais des atterrissages en termes de trésor tous les 15 jours, parce qu'on ne savait pas comment, en fait, la boîte allait réagir, enfin, comment le marché allait réagir, si on allait tenir. Et donc, oui, tu as des moments, waouh, faut tenir, tu tiens le choc, mais tu tiens le choc, tu tiens le choc. Et c'est en même temps très vivant. C'est très vivant, c'est que tu ne t'ennuies pas. Et ouais, c'est du roller coaster. Et en même temps, des moments de... C'est pas non plus, tu fais pas le yo-yo tous les jours, mais... Ouais, c'est génial de te dire que t'as encore un chemin à parcourir, dingue, que t'as encore plein de projets à faire, et puis que tu t'éclates surtout. En fait, tant que je reste passionnée, ça va. Ouais. Le jour où j'ai plus la niaque, la passion, ça m'emmerde, ou en fait, je suis plus en phase... Il y a des moments où, en fait, la boîte part de l'extérieur. On m'a un peu imposé une tournure que je ne voulais pas. J'ai résisté. J'ai bien fait. On a bien fait, Pierre et moi, de résister.
Comment t'as fait ? Tu peux en parler un peu plus ou...
Bah, après, t'es pas tout seul à bord. T'as des fonds d'investissement. Donc, il y a des moments, bah, tes fonds d'investissement, enfin, voilà. Après, Pierre et moi, on n'est plus majoritaire à partir du moment où on a des fonds d'investissement. Parce qu'on s'est dilué au début quand on était, on faisait peu de. En fait, on a levé 7 millions. Les 6 premiers millions de la boîte, et après on a plus du tout levé d'argent, et là on a clôturé 50 millions, enfin tu vois, on a eu besoin de lever tôt, donc tu dilues tôt. Après, beaucoup de boîtes lèvent tout le temps parce qu'elles épongent leurs pertes. Moi je voulais vraiment être rentable très tôt pour toujours ce côté liberté, hein. Boîte ouais. Saine, et au moins tu la gères comme tu l'entends, et tu n'es pas à la merci des fonds d'investissement. Merci aux fonds d'investissement parce qu'heureusement qu'ils sont là. Je ne sais pas pour les critiquer, mais donc effectivement, quand tu as des fonds d'investissement à bord ou même d'autres personnes, typiquement voilà quelqu'un que tu associes et que si t'es pas aligné, faut résister en fait. Faut résister et garder en toi. Tu dis non, mais ma vision des choses c'est ça. Et en même temps, au bout d'un moment, tu dis peut-être que si je suis la seule à m'opposer face à tout le monde et à résister. Bon, à un moment donné, peut-être que tu lâches. Et tu dis, de toute façon, je lâche parce que je sens que la pression est trop forte. Donc, on va le faire, on va y aller, mais je n'y crois pas. Donc, j'y suis allée. Et ça, c'est parfois sur des... Voilà, sur des axes stratégiques. C'était des erreurs de recrutement aussi. Mais c'est pas grave, ça apprend. De toute façon, ça m'a énormément... Heureusement que c'était sur mon chemin. Parce que t'apprends, je regrette pas.
J'allais te demander justement comment t'as fait toi pour te former, parce que j'imagine que quand tu démarres Smallable, tu sais pas comment faire tourner une boîte, quoi. C'est ta première boîte et...
Tu sais pas, mais mine de rien, j'avais tellement appris quand même d'Yves Mélancel. En fait, j'observais, c'est-à-dire que j'avais beau être au marketing, j'observais la logistique, j'observais comment les RH faisaient. Enfin, en fait, j'avais fait mon petit laboratoire d'expérimentation, donc... Je voyais un PDG, les PDG, Lancel, voilà, on a été vraiment, j'étais plusieurs fois au comité, pendant que ma boss n'était pas là, j'étais au comité de direction, donc je le voyais tout le monde. Et je voyais vraiment comment une boîte marchait. Et donc je suis arrivée quand même, j'avais quand même une bonne connaissance de l'entreprise dans tous ses rouages. Après, évidemment, t'apprends sur le tas, t'apprends sur le tas. Mais je dirais que j'étais pas complètement néophyte. Je pense que quand tu démarres, j'aurais démarré après la fac, comme ça, ouais, je me serais pris beaucoup plus de gamelles et j'aurais été plus... j'aurais pas eu la maturité nécessaire pour faire peut-être que Smallable dure autant. Tu vois, ça aurait peut-être pas duré si facilement.
Tu t'es formé tout au long de ces 12 ans, toi ?
Mais je me forme toujours, hein. Tu sais, tu te formes, rien que le management, tu te formes en permanence. L'humain, le management de l'humain... Tu te formes, ouais, tu te formes tout le temps. T'as des nouveaux projets. Donc, à chaque fois, si tu défriches des territoires, t'apprends. Voilà, des nouveaux territoires, t'apprends. Voilà. Donc, c'est bien. Et c'est ce que j'aime.
Parlons un petit peu du fait d'avoir monté cette boîte en couple. Comment ça se passe, sans pourtant entrer dans votre vie privée, mais au sein de votre couple, est-ce que vous arrivez à... comment dire, à mettre des barrières, tu sais, et à vous retrouver à un moment donné dans une vie perso dans laquelle vous n'avez pas Small et Ball d'une manière ou d'une autre. Ou alors, est-ce que Small et Ball fait finalement aujourd'hui partie de votre couple intégrant, quoi?
Ouais, je crois que c'est notre premier bébé. Non, mais c'est, en fait, enfin, en tout cas, pour nous, c'est un leurre. Je pense que tant qu'on aura Small et Ball, on vivra un peu Small et Ball. Mais après, ça va, faut pas nous prendre pour des dingos à être complètement Small et Ball addict ou quoi que ça. On le vit bien. En fait, on le vit bien, mais on aime ça. Et puis c'est pas Small et Ball, je sais que après Small et Ball, ou c'est Small et Ball qui, voilà, la petite galaxie, on aura d'autres projets, mais même si au pire on arrête un Small et Ball un jour, on fera un autre truc ensemble, et je le sais parce que je pense qu'on a la même personnalité, en fait on s'épanouit dans le projet et en fait on a trouvé notre place, on est hyper complémentaires et en même temps toujours hyper alignés. Et c'était pas facile au début parce que j'ai pris sur moi, je pense. En fait, j'ai travaillé sur moi. C'est pas que j'ai pris sur moi, mais j'ai travaillé sur moi. Je pense que pour Pierre, c'était pas facile parce que je suis assez directive, assez autoritaire. Je prends les choses en main, je suis un peu, il faut que ça. Je suis pas facile, quoi. Enfin, c'est pas évident pour l'autre de trouver sa place.
Je peux imaginer.
Ouais. Tu te retrouves, c'est ça, non? Donc après, il faut tout, hein. C'est ça. Hein. Il faut des gens plus posés, puis des gens plus. tu vois, qui foncent un peu plus. Voilà. Donc voilà, c'était pas évident. C'est le pire moment de. C'était quand on était tout seul, tous les deux dans le même bureau, quand on a soulevé des bureaux. Alors là, je pense que. Il pétait un plomb parce que je parle fort, parce que je prends un peu trop de place, quoi. Et lui, il est plutôt plus posé, plus créatif. Il a besoin de plus d'être dans sa solitude pour créer, pour conceptualiser. Et moi, je me réalise plutôt dans l'action, avec l'énergie des autres, je trouve mon énergie. Enfin, tu vois, voilà. Donc, on est très différents et en même temps très alignés. On est toujours, c'est hallucinant. On a la même vie. Je sais pas. Hein, c'est un peu mon âme sœur. Un peu à tous les niveaux, mais aussi d'un point de vue business, en fait. Cool. Donc, c'est chouette. C'était pas, je dirais que c'était quand même pas facile au début de trouver le modus operandi pour le côté aligner nos personnalités et trouver et laisser de la place. Ouais. Je reconnais un peu, voilà, mes erreurs là-dessus où je trouve que, mais je me suis calmée, en fait. Elle s'agit avec l'âge. Je me suis, oui, arrondie, quoi. Je me suis, donc du coup, ça laisse de la place aux autres.
Et j'imagine que ça ne doit pas être évident non plus quand tu es un peu dans le jus, toi, d'avoir ton gars qui travaille avec toi et qui est dans la boîte, de ne pas avoir un regard extérieur à un moment donné, tu vois. Je pense que quand c'est dur pour toi, tu rentres et puis tu racontes tes problèmes et en fait, tu as quelqu'un de l'extérieur qui vient de t'amener un œil complètement neuf.
Ouais, alors c'est vrai qu'on est un peu en vase clos, hein, ça c'est sûr, mais en même temps, il y a ce ping-pong pas mal. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on s'est dit, oulala, quand on plonge, alors je ne dis pas que parfois, il y a des moments où on a traversé des crises, on les a traversées ensemble, on était un peu down, mais je rebondis vite. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de toucher, mais après, je rebondis très vite et je suis comme un peu en mode warrior. Bon, alors, c'est quoi le plan d'action? Et ce qui est bizarre, c'est que j'ai un peu un sang-froid, en fait, de combat. Tu sais, c'est bizarre quand il y a des moments durs. Et je prends les choses en main, et voilà. Mais je dis pas qu'on n'a pas traversé les crises et que du coup, quand t'es down, on peut être down ensemble. Mais quand même, il y avait ce ping-pong où, quand il y en avait un qui avait pas le moral, je me souviens, ça nous arrive plus trop maintenant, mais quand il y en avait un qui avait pas le moral, bah, l'autre lui trouvait les mots positifs. Et du coup, voilà,
on faisait les vases communicants, quoi.
Ouais, c'est ça, on faisait les vases communicants. Donc ça, c'est bien. C'est vrai qu'en revanche, c'est assez vase clos et qu'on n'avait pas un œil forcément extérieur. Après, on a l'autre œil qui est quand même différent. Mais on partage tellement, énormément tout le temps, hein, sur plein de choses, hein. C'est pour moi le meilleur associé. Le meilleur associé. Et en fait, si il avait pas été dans l'aventure, si j'avais pas été avec Pierre dans l'aventure, je pense qu'aujourd'hui je serais seule. Soit j'aurais des enfants, mais j'aurais divorcé. Non, mais honnêtement, je suis sûre que mon couple n'aurait pas tenu. Parce qu'en fait, pour moi, ma passion, mes projets, mon épanouissement, qui passe par le projet professionnel ou ce soit artistique demain ou quoi que ce soit, mon épanouissement est tellement important que je peux pas le sacrifier. Et donc, il faut qu'en fait, le personnel suive, en fait. Ouais, c'est pas toujours évident à dire, hein, parce
ça
que...
Ça doit
je suis épanouie si je suis épanouie professionnellement. Voilà, si je m'épanouis dans un projet.
Okay.
Sinon, je ne suis pas épanouie, en fait. Et du coup, après, la famille, je pense, le sang. Et après, comme ça t'accapare tellement, tout le temps, je pense qu'en fait, si ton mec, il arrive et il a un boulot et que tu lui parles le soir de tous tes soucis, des machins, gna gna, puis machin, puis qu'il t'en pense quoi ? Il te dit, mais arrête, tu me saoules, quoi. Arrête, ça me... Voilà. Donc, c'est plutôt une force parce qu'une grande cohésion.
Tu parlais tout à l'heure de ton intérêt quand tu avais 20 ans et que tu es allé en Inde de Woman Empowerment. Moi, j'aime bien utiliser le terme empowerment, c'est cool, je trouve. Comment tu as réussi à amener ça ou infuser ça dans ta boîte aujourd'hui ?
Comment j'infuse ça dans ma boîte? Déjà, il y a beaucoup de femmes quand même. Hein. On est 70% de nanas. Alors, c'est pas forcément volontaire, mais je suis quand même fière d'accompagner des filles parfois qui sont jeunes et de les faire grandir et de les déployer et d'amener aussi, de leur confier des responsabilités, de les faire grandir, hein, leur confier des responsabilités et leur donner confiance en elles. Parce qu'il y a toujours ce coup, enfin tu vois, quand t'es une femme, c'est vrai, globalement, t'as toujours ce déficit de confiance par rapport aux hommes dans une boîte, souvent professionnellement. Et c'est vrai que je peux le ressentir auprès des... Et donc, j'aime l'idée, voilà, de les emmener avec moi, de les faire grandir et qu'elles se déploient, en fait. Comme on m'a aidée aussi à me déployer. Donc, ça passe par ça. Ça passe, je pense aussi par... Pas l'exemple, elles ont une, c'est une dirigeante à la tête de l'entreprise, pour qui, voilà, l'empowerment est important, mais je dirais après aussi, c'est aussi un mode de management il y a le moment d'empowerment, mais c'est quand même assez égalitaire et juste, en fait, hein. Je suis pas pro-féministe absolument, ouais. Et du coup tout tourner, mais c'est plutôt pour plus d'égalité, pour que les femmes se sentent vraiment égales à l'homme. Et qu'en fait, leur dire, parce que franchement, là, je le subis tous les jours, hein, honnêtement, encore aujourd'hui, même en 2021, honnêtement, c'est difficile d'être une femme dans le business, en fait. Et t'as encore énormément de préjugés. Je suis quand même dans...
Ta boîte, elle a fait ses preuves, quoi.
Elle a fait ses preuves. Mais mine de rien, t'as encore... Alors, je sais pas si c'est très français, mais t'as quand même encore cette image. Alors, attends, moi, j'ai fait la fac, déjà. J'ai pas fait HEC ni Polytechnique, déjà. Je suis femme. Oula ! Bon, voilà, tu cumules deux trucs et peut-être que je suis pas parisienne non plus, donc je suis pas du microcosme, donc je suis pas des sérailles. En fait, et là, mais on te dit, mais comment on va te faire confiance ? Puis après, c'est le problème, c'est que c'est les investisseurs, il y a que des hommes. Alors, mais heureusement que j'ai eu des investisseurs hommes qui ont cru quand même en notre projet et en moi, parce qu'ils croient avant tout aussi en une équipe dirigeante et de fondateur et tout. Mais heureusement qu'il y en a qui. Mais c'est quand même un peu le parcours du combattant. C'est le parcours du combattant parce qu'en fait, t'as que des hommes en face de toi. Moi, je pense que, on a pitché plusieurs fois parce qu'on a fait plusieurs levées de fonds. Mais j'ai eu peut-être 3 femmes en tout. Mais parfois, tu vois jamais de femmes. À mon board, j'ai que des hommes. Je suis la seule, en fait, dans un board, dans mon autre conseil, je suis la seule toujours aujourd'hui.
C'est ouf, alors que ta boîte, elle est à 70%
De femmes. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, les investisseurs, c'est essentiellement des hommes, c'est très peu féminisé, d'où la difficulté. C'est pour ça aussi que je voulais être rentable tôt, parce que je sentais bien je suis différente, je suis un peu atypique et je sens que potentiellement, ça peut être compliqué. Et c'est vrai que, honnêtement, il y a un petit côté pas, on voit que des boîtes montées par des... Enfin, il y a des études qui montrent que des PME montées par des boîtes, c'est des boîtes qui sont souvent plus saines, plus solides et surtout plus rentables, plus performantes économiquement. Et je dirais que, oui, Smallable en fait partie, parce que dans des boîtes e-commerce qui sont rentables à 10 millions d'euros et qui sont du coup saines, solides, et j'ai toujours voulu pas brûler les étapes à faire des levées gigantesques pour exploser peut-être en plein vol un an après et se faire des charrettes, parce que c'est ça aussi, hein, le monde du e-commerce ou du digital. Bien c'est sûr. Un peu ça, la l'hyper-croissance, mais du coup aussi l'hyper-explosion parfois en plein vol. Et du coup, tu fais des tas de dégâts humains, sociaux, j'ai une grande responsabilité vis-à-vis de ça, pas que vis-à-vis de mes salariés, mais vis-à-vis de tous ceux qui dépendent un peu en quelque sorte de Smallable, quoi. Donc nos partenaires, nos marques, voilà. Et les premiers investisseurs aussi, enfin voilà. Mais c'est vrai que je pense que voilà, t'es un homme, les hommes, et en plus ils présentent des business plans souvent beaucoup plus ambitieux que les femmes. Bah oui, bah moi je présentais 30% de croissance. Bah ouais, mais c'est une croissance réaliste, c'est que je sais faire.
C'est déjà pas mal.
Et c'est déjà pas mal. Et en fait, c'est une croissance pour ne pas faire n'importe quoi ou surdépenser après en marketing pour rien. En fait, c'est du gâchis. Au moins, c'est une croissance qui est un peu plus que du naturel quand même, que t'es obligé d'accompagner. Mais ouais, c'est une croissance saine et c'est la preuve. Voilà, tu vois, on va peut-être faire 70 millions d'euros en juillet avec une bonne rentabilité et je suis contente de continuer à être fort parce qu'en plus, derrière, il y a tout un écosystème de créateurs qui ont besoin de nous aussi, de pouvoir embaucher quotidiennement, créer plein de projets, on fait de la croissance, on crée de la valeur, on crée des emplois, c'est chouette, quoi. Et donc, autant pas faire n'importe quoi. Mais voilà. Le côté peut-être un peu plus raisonnable des femmes, et peut-être c'est lié à la confiance aussi, c'est-à-dire qu'on est, on survend pas. Et c'est vrai que parfois quand je pitchais, on parlait d'autres entrepreneurs. Ouais, mais alors lui, il peut vendre n'importe quoi, mais il vend du rêve, mais les investisseurs ont besoin de rêver. Ouais, mais moi, c'est pas moi. Moi, je préfère être vraie, je suis authentique, donc moi, je vends quelque chose que je sais faire. Et c'est vrai qu'on a toujours délivré nos plans et on a toujours fait mieux que nos budgets. Voilà, mais au moins, voilà. J'apporte des bonnes nouvelles et des bonnes surprises.
Ce que tu disais aussi, pour les gens qui connaissent peut-être un peu moins le business, parce que tu sais, on a toutes sortes d'auditeurs et d'auditrices, mais c'est que le fait d'aller chercher de la rentabilité tôt, ça t'a permis de pouvoir t'offrir une liberté vis-à-vis justement de ce fonds d'investissement.
C'était indispensable. Quoi. Et aujourd'hui, voilà, on a nos fonds à bord qui sont toujours là et évidemment, merci, heureusement qu'ils sont là, sinon on n'aurait pas pu monter en boîte de commerce, tu peux pas, parce que les banques ne te suivent absolument pas. Ça, rien.
C'est un autre sujet.
Ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est franchement, merci. Maintenant, oui, mais pas au début. Donc, heureusement que les fonds de Capital Race sont là. Mais, oui, je sais plus ce que tu me disais.
Que ça te permettait d'avoir ta liberté.
Mais c'était hyper important. Ouais, je voulais avoir ma liberté. Parce que la liberté de choisir et de décider, même si, voilà, on a un comité de consultatif, de décision stratégique. Mais si Pierre et moi ne présentent pas des trucs trop cons, voilà, notre stratégie, elle passe. Et voilà, et ils nous font confiance et ils nous suivent. Voilà. Donc oui, c'est la liberté de décider et de, bah évidemment après de te planter aussi, hein. Mais bon, je préfère avoir la liberté, c'est sûr.
Écoute, merci beaucoup Cécile pour ce partage. La dernière question que je voulais te poser, c'est quoi les projets pour Small & Ball là, de réussir à survivre 2021, c'est ça?
Ouais, réussir à survivre et puis on se lance pas mal de projets. Je trouve que généralement, ces crises, au lieu de te paralyser, nous, ça nous donne plutôt plus des envies de faire plein de choses. Donc, bon, on a plein de projets là dans le pipe, plutôt des gros projets techniques de refonte de site, de back office et tout, donc qui sont assez longs. Après, c'est continuer notre aventure un peu internationale, c'est-à-dire que voilà, les US, on se déploie aux US, on se déploie en Asie.
On en a très peu parlé, mais vous avez ouvert très très tôt.
Ouais, on a ouvert très tôt à l'international, et puis ça c'est chouette, on lance d'autres marques en propre, on a des idées de podcast peut-être, enfin, on a d'autres idées quoi, enfin, c'est ce que je dis, notre petite galaxie où on rajoute des petits projets, ouais, on s'ennuie pas, mais c'est comme ça que aussi ça fonctionne, parce qu'on lance plein de trucs et ça marche plutôt bien jusque-là. On s'en sort bien.
Bravo en tout cas, Cécile. Merci beaucoup.
Merci Fabrice.
À plus.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit... Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend, et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.